Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entendre de nouvelles merveilles du répertoire. Alors aujourd'hui, on pourra peut-être me reprocher de ne pas suivre un véritable fil rouge comme j'ai l'habitude de faire dans mes émissions, mais je vais vous rétorquer quand même que le fil rouge de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la beauté des œuvres et vous allez entendre extrêmement diverses les unes des autres, mais vraiment toutes absolument splendides. Alors je vais vous présenter le menu de cette émission et puis ensuite, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors aujourd'hui, nous allons traverser près de 4 siècles de musique, rien que ça, et nous allons commencer avec le XVIIe siècle, avec une grande figure, Heinrich Schütz. Il a été le fondateur de la musique allemande moderne, et en particulier avec certaines de ses pièces qui sont très célèbres, notamment les psaumes de David, qui témoignent de l'influence décisive de la polychoralité de Venise. Nous allons ensuite poursuivre avec Jean-Sébastien Bach et l'un de ses plus célèbres chorales de Leipzig, le monumental Comme Heiliger Geist, BWV 651. Et enfin, nous allons terminer notre parcours avec l'un des compositeurs les plus appréciés de la création chorale contemporaine. Il s'agit du Norvégien Ola Yello, dont la News Dei nous fera entrer dans un univers sonore d'une grande douceur contemplative, vous allez voir. Alors, on va tout d'abord se pencher sur le premier de nos larrons, à savoir Heinrich Schütz. Et avant d'écouter cette œuvre, il convient quand même de s'arrêter sur la personnalité de son auteur. Alors, Schütz est né en 1585 et il est mort en 1672. Il est généralement considéré comme le père de la musique allemande avant Bach. Et son importance dans l'histoire musicale est très considérable. Il est celui qui réussit à assimiler les innovations italiennes les plus modernes pour les intégrer à la tradition germanique. Alors sa carrière est étroitement liée à la cour de Dresde, où il occupe pendant plusieurs décennies la fonction de maître de chapelle, mais un événement va marquer durablement son langage musical, c'est son séjour à Venise. Il y étudie auprès de Giovanni Gabrielli, qui est l'un des plus grands compositeurs de son temps. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Venise est alors un laboratoire musical exceptionnel. Dans la basilique Saint-Marc, je ne sais pas si vous y êtes déjà rentré, mais en fait, l'architecture de la basilique explique la musique qui s'y tenait. C'est là que s'est développée une technique spectaculaire qu'on a appelée plus tard la polychoralité. Alors vous aviez plusieurs ensembles vocaux et instrumentaux qui étaient disposés dans différents espaces de l'édifice et qui dialoguaient entre eux sous ces magnifiques coupoles. Et en fait, cette disposition crée des effets de contraste, d'écho, de spatialisation et de grandeur sonore totalement nouveaux. En gros, ils avaient inventé le Dolby Atmos avant l'heure, si j'ose dire. Et Schütz comprend immédiatement les possibilités expressives de ce langage très novateur, et lorsqu'il revient en Allemagne après son séjour, il devient le principal diffuseur de cette esthétique absolument mémorable. Alors les psaumes de David qui nous intéressent aujourd'hui sont eux publiés en 1619 et ils constituent sans doute l'aboutissement de cette influence vénitienne. C'est un vaste recueil de 26 psaumes qui sont mis en musique selon des effectifs extrêmement variés. Alors Schütz y exploite toutes les ressources de la polychoralité, à savoir l'alternance des différents groupes vocaux, des dialogues entre chanteurs et instruments, les oppositions de masses sonores et des grandes architectures musicales qui sont inspirées directement des modèles de Gabrielli. Mais évidemment, sinon je vous aurais fait entendre Gabrielli, Schütz ne se contente pas d'imiter les Italiens, il adopte leur style à la langue allemande, et vous allez l'entendre, la diction est absolument importante ici, notamment parce qu'il s'agit des psaumes, et donc il y a une véritable tradition luthérienne. Les textes bibliques deviennent ainsi le moteur d'une expression musicale particulièrement vivante et même dramatique, et le psaume que nous allons entendre est le deuxième psaume de David, « Warum toben die Heiden ?»« Pourquoi les nations s'agitent-elles » Et le texte évoque la révolte des peuples contre Dieu et contre son oint, et on y trouve une forte tension dramatique qui alterne parfois entre agitation, colère et menace, et affirmation triomphante de la souveraineté divine, finalement. Schütz ici traduit admirablement ces contrastes. Vous allez entendre, dès les premières mesures, les différentes formations se répondent avec une grande vigueur. Les entrées successives des chœurs créent une impression de mouvement permanent, presque de tumulte collectif, qui illustre parfaitement l'agitation décrite dans le texte. Et en plus, l'interprétation que nous allons entendre met particulièrement en valeur cette dimension monumentale, parce que vous avez une présence importante de cuivre et d'instruments avant, qui renforce ce caractère solennel et cérémoniel de l'œuvre. Ces couleurs éclatantes rappellent directement d'ailleurs les fastes de la basilique Saint-Marc. Et l'orgue également, vous avez un continuo qui joue un rôle essentiel, une registration ici qui est choisie, qui s'apparente presque à un petit plénum. Elle apporte une lumière particulière à l'ensemble du tissu sonore et contribue à cette impression de rayonnement et de majesté qui caractérise l'œuvre. Vous allez entendre un véritable chef-d'œuvre en vérité. Alors nous écoutons Heinrich Schütz, Warum toben die Heiden, extrait des psaumes de David, ici interprété par la Capella Murensis et les Cornets Noirs, sous la direction très inspirée de Johannes Strobel.
Thank you.
Quelle œuvre magistrale et complexe, non seulement par son instrumentation, mais également la diction des textes absolument parfaite, vous l'avez entendu, une œuvre majeure, et bien entendu, si elle vous a plu, je vous invite à découvrir les autres psaumes de David, composés par Schütz, de véritables petites merveilles de la musique sacrée qui, là aussi, rendent vraiment hommage à ce qu'était la musique dans les églises, dans les grandes églises, à cette époque-là. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Point d'Orgue, et après les fastes polychoraux du premier baroque allemand, nous allons avancer d'un siècle pour retrouver celui qui représente aujourd'hui encore l'un des sommets de toute l'histoire de la musique occidentale, Jean-Sébastien Bach, qui est lui né en 1685 et mort en 1750. Et Johann Sébastien Bach, vous le savez, apparaît souvent comme l'aboutissement de plusieurs siècles de tradition musicale européenne. Il fut organiste virtuose, improvisateur admiré, pédagogue, compositeur prolifique. Il maîtrise tous les genres de son époque, à l'exception notable, et ça il faut le noter, de l'opéra. Pourquoi n'est-il pas allé là-dedans? Alors certains pourront répliquer que certaines de ses œuvres sont presque opératiques, hein, on peut penser à ses passions, mais c'est vrai que c'est un genre qu'il n'a pas exploré, il a laissé ça à d'autres, Handel notamment, mais voilà, il y a ce grand mystère de Bach autour de l'opéra. Mais peu importe, puisque nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, nous allons parler de sa musique, et notamment sa musique d'orgue qui occupe une place centrale dans son œuvre. Car Bach est avant tout connu de ses contemporains comme un organiste hors pair, et ses compositions pour l'instrument constituent toujours aujourd'hui le cœur du répertoire organistique. Alors parmi celles-ci figurent les célèbres chorales de Leipzig. C'est un recueil qui rassemble 18 grandes élaborations chorales révisées par Bach dans les dernières années de sa vie. Donc c'est un peu l'aboutissement de la forme de la musique de Bach. C'est vraiment un aboutissement spirituel et artistique. Et ses œuvres condensent toute l'expérience du compositeur dans le domaine du choral luthérien. Chaque pièce développe avec une extraordinaire inventivité, une mélodie qui est connue par toute l'assemblée, qui est transformée ici en vaste méditation musicale. Alors, le choral que nous allons entendre maintenant, comme Heiliger Geist, Herr Gott, est associé à la fête de la Pentecôte. Son texte invoque l'Esprit Saint et demande sa présence parmi les fidèles. Alors, cette fantaisie, parce qu'il s'agit d'une fantaisie, est probablement la plus spectaculaire de tous les chorales de Leipzig. Vous avez la mélodie qui apparaît au pédalier sous la forme sous une forme qui est majestueuse et très raffinée. Alors ça commence par une longue pédale, tandis que les claviers développent autour d'elle un foisonnement contrapuntique d'une remarquable énergie, vous allez entendre. Et dès les premières mesures, l'écriture semble animée d'un mouvement irrésistible. Vous avez des motifs qui se poursuivent sans relâche, qui évoquent parfois le souffle du vent, l'image biblique traditionnellement associée à l'Esprit Saint. Alors vous allez entendre une construction totalement magistrale, et derrière l'impression de liberté, ça c'est le grand génie de Bach, se cache une organisation extrêmement rigoureuse où chaque élément contribue à mettre en valeur la mélodie du choral. Alors l'interprétation retenue aujourd'hui est celle de Jean-Baptiste Dupont au grand orgue à Rentz au musée des Augustins de Toulouse. Cet instrument, inspiré des modèles germaniques du XVIIIe siècle, c'est un instrument moderne, permet de mettre particulièrement en valeur la transparence du contrepoint de Bach. Les différents plans sonores demeurent très lisibles, tandis que la richesse harmonique de l'œuvre trouve un écrin particulièrement adapté. Alors maintenant que je vous ai bien présenté cette œuvre, place à la musique. Nous écoutons Jean-Sébastien Bach avec sa fantaisie Heiliger Geist BWV 651 sous les doigts donc de Jean-Baptiste Dupont. monumentaux chorales de Leipzig ou l'art consommé de Jean-Sébastien Bach, on peut contempler tout le génie créatif de ce compositeur au crépuscule de sa vie, qui donne effectivement cette sensation si parfaite de maîtrise et de mariage entre quelque chose d'extrêmement populaire, le choral que tout le monde pouvait connaître, et la musique savante, comme quoi les deux peuvent véritablement s'allier et former de véritables chefs-d'œuvre. Alors, après les fastes de Jean-Sébastien Bach, eh bien, nous allons maintenant effectuer un saut de près de 3 siècles pour rejoindre l'univers de la musique chorale contemporaine avec un compositeur que j'aime beaucoup, je vous en parle assez régulièrement, Ola Yello, qui lui est né en 1978 en Norvège. Il est toujours en vie, il est installé depuis de nombreuses années aux États-Unis et il s'est imposé comme l'une des figures majeures du renouveau choral contemporain. Alors sa musique est très intéressante, elle se situe à la croisée de plusieurs influences. On y retrouve l'héritage de la tradition chorale scandinave, qui est caractérisée par la pureté des timbres et le goût pour les vastes espaces sonores, on va y revenir, mais également des influences venues de la musique de film, du minimalisme et parfois même du jazz. Alors son langage harmonique demeure essentiellement tonal, ce qui explique sans doute une immense popularité auprès des chœurs du monde entier, mais derrière cette accessibilité apparente, son écriture révèle une grande maîtrise de la couleur sonore et des textures vocales. Alors l'Agnus Dei que nous allons entendre appartient à ses œuvres qui privilégient avant tout l'atmosphère et la contemplation. Le texte liturgique, lui, est extrêmement bref. Il s'agit de l'invocation adressée au Christ, l'agneau de Dieu, au moment de la messe. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, agneau de Dieu, voilà, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous, et on termine avec, donc, une deuxième évocation, et on termine avec donne-nous la paix. Et toute la force de cette pièce réside dans sa capacité à suspendre le temps. Vous allez entendre des harmonies qui évoluent lentement, sans heurts, dans un climat de paix intérieure. Et vous avez une écriture chorale assez complexe, divisée ici en 8 parties réelles. Cette division permet au compositeur de déployer des accords particulièrement riches et enveloppants. Les voix semblent former, vous allez l'entendre. Moi, je trouve que ça s'apparente à un immense nuage sonore dont les couleurs se transforment progressivement. Et on y retrouve un caractère très aérien, c'est pour ça que je vous parle de nuages, presque immatériel, qui constitue, il faut bien le dire, l'une des signatures de la Yello. Ces lignes vocales flottent avec une grande souplesse, créant une impression d'espace et de lumière. Et évidemment, cette luxuriance harmonique évoque souvent les paysages nordiques, des vastes horizons, une lumière diffuse, une sensation de calme et d'infini. Ici, tout concourt à installer l'auditeur dans une expérience méditative. Et c'est d'autant plus extraordinaire quand on entend l'interprétation du chœur du Royal Holloway, dirigé par Robert Goth, qui met admirablement en valeur cette richesse de texture. La précision de l'intonation des choristes permet aux harmonies de rayonner pleinement, tandis que l'équilibre des 8 parties conserve une remarquable transparence, vous allez l'entendre. Alors, pour conclure cette émission, nous écoutons donc l'Agnus Dei de la Yello par les chœurs du Royal Holloway sous la direction de Robert Goth. Et c'est avec cette impression de pas terminé que se termine cette pièce absolument remarquable. Vous l'entendez, chaque Agnus Dei est extrêmement différent. Trois sculptures très différentes pour un même texte, avec ce Dona Nobis Pacem qui se conclut vraiment de façon très suspendue. J'espère que cette œuvre vous a plu. Ainsi s'achève ce numéro de Point d'Orgue avec ses quatre siècles de musique, trois esthétiques très différentes, mais avec cet objectif de mettre la musique au service du texte, de la spiritualité et de l'émotion. Merci de votre fidélité à Point d'Orgue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.